vivre, c'est épatant.
Depuis les Champs-Élysées,
sur Vivre FM.
Malgré mai 68, la libération de la femme, décider de ne pas avoir d'enfant lorsqu'on est une femme est encore tabou aujourd'hui en France. Notre invitée l'a vécu, elle qui a fait ce choix. Elle a 35 ans, n'aura pas d'enfant. Et bien ce choix suscite l'incompréhension auprès de certaines. Comment le gérer? Que répondre à l'éternelle question « Vous avez des enfants ?» Non ? Pourquoi ? Elle nous dit tout dans son livre « J'ai décidé de ne pas être mère » aux éditions L'Iconoclaste. Un essai pour bousculer les préjugés, changer le regard.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
Chloé Chaudet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante, chercheuse à l'université. Vous avez eu peur de sortir ce livre ?
Oh, peur non. Je pense qu'au contraire, ce fut un grand soulagement.
Oui.
Au moment où j'ai enfin réussi à prendre la plume. Et un soulagement aussi. Vous parliez précédemment de ma profession, enseignante-chercheuse, puisque j'ai eu quelque peu l'impression de faire porter la voix de mes étudiantes et de mes étudiants et de leurs inquiétudes et de leurs difficultés à exprimer parfois leurs craintes quant à l'avenir, qui peuvent se traduire sur leur désir de parentalité.
Oui, oui. Vous avez des étudiantes et des étudiants qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants et qui s'interrogent, est-ce que ça va être bien perçu, c'est ça ?
Oui, alors je ne sais pas si vous avez, c'est tout à fait récent, hein, il y a deux jours, le journal Le Monde a répercuté une immense enquête planétaire organisée par différents scientifiques, hein, pour la revue de spécialistes des Lancet, qui justement a amené un chiffre absolument, que j'ai trouvé absolument frappant, 39% des 16-25 ans auraient actuellement peur d'avoir des enfants.
Oui.
En raison de la situation sanitaire compliquée à l'échelle planétaire, en raison du chômage, hein, qui se généralise aussi auprès des jeunes générations, et puis en raison de ce qu'on peut parfois qualifier d'anxiété environnementale, hein, d'inquiétude liée aux changements planétaires et environnementaux qui nous affectent. Et la génération de mes étudiants est totalement concernée par cela. Et disons qu'entre eux, c'est assez facile de discuter de tout cela, de l'affirmer, d'argumenter, de débattre. Mais c'est dès qu'il s'agit de faire porter ce choix, hein, qui est un choix comme un autre, hein, le fait de ne pas vouloir d'enfant ne doit pas justement être considéré comme problématique, comme moins justifiable, hein, que le choix d'en avoir. Mais c'est plus compliqué de l'exprimer au niveau de ses parents, de son entourage plus ou moins familial, hein, indépendamment des parents, et auprès d'autres générations que la leur. Et c'est quelque chose, effectivement, qui m'avait vraiment frappée et que j'ai aussi cherché, justement, à exprimer à travers ce livre pour faire sortir un petit peu ce débat concernant la parentalité des cercles de spécialistes.
Oui, oui. Et alors, justement, vos étudiants, eux, se posent ce type de questions. Les plus vieux, beaucoup moins, c'est ça ? Quel a été le retour, justement, des personnes qui ont plus de 20 ans, plus de 30 ans, et plus de 40 ans ?
Vous voulez dire quand on à mon choix
le retour de ce livre
alors ce qui est assez intéressant, c'est que l'un des premiers retours que j'ai eu, ça rejoint totalement les objectifs de votre radio, c'est une amie qui m'a dit mais en fait tu fais ton coming out avec ce livre.
Oui.
En employant un terme, hein, qu'on emploie plutôt habituellement pour désigner la fait de parler de son homosexualité pour la première fois, bon. Et j'ai trouvé assez intéressant de voir que finalement ce choix de ne pas être mère, hein, questionner tout simplement le rapport à la norme, qui est tout à fait révélé par cette réaction que j'ai eue à chaud, puisque, alors, il n'existe pas encore de sondage à grande échelle, même si je vous parlais de ce sondage très récent, mais on va dire que quand on prend la part des femmes de 18 à 79 ans, hein, selon les derniers sondages à grande échelle, environ 5% des Françaises ont exprimé leur choix de ne pas vouloir d'enfants ou de ne pas en avoir voulu précédemment, si vous voulez. Donc même si là, il se passe quelque chose au niveau de la jeune génération, ce choix reste tout de même minoritaire, du moins au sein de la société française, et est perçu comme une déviance. Hein, c'est le terme qui est employé par les sociologues spécialistes de la question.
Ah oui.
C'est là qu'on voit vraiment qu'il y a une sorte de entre guillemets, de convergence des luttes ou en tout cas d'un dialogue à grande échelle à mener pour que finalement, ce qui sorte de l'ordinaire, ce qui sorte de la norme, cesse d'interroger. Et qu'on puisse un jour tout simplement dire qu'on ne veut pas d'enfant sans avoir immédiatement, sans être confronté immédiatement au flot de questions ou de remarques du type « mais es-tu sûr d'avoir trouvé le bon ?»« Mais ne penses-tu pas que tu vas changer d'avis ?» Ou alors « bon, bah oui, c'est normal, hein, tu es, dans mon cas, tu es une intellectuelle, tu écris des livres, donc tu n'as pas besoin d'avoir d'enfant. Enfin, » comme si les mères, bien sûr, n'étaient pas capables d'avoir une activité intellectuelle et comme s'il devait forcément s'agir d'une compensation. Et c'est vrai que toutes ces remarques, questions que j'ai pu entendre, mettent en lumière, éclairent le fait qu'il s'agit d'un choix qui est encore minoritaire.
Oui, alors c'est encore minoritaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de mères qui justement n'ont pas envie ou n'ont pas eu envie d'avoir des enfants, mais qui en ont fait pour être comme tout le monde parce que c'était la norme ?
Alors, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu paradoxal quand on pense, vous parliez tout à l'heure de 68 et des mouvements féministes, on pourrait se dire spontanément que c'est finalement quelque chose qui est acquis, mais quand on observe un petit peu l'histoire de ces combats, on se rend compte que la question justement du droit à l'enfant est devenue tellement généralisée, tellement fondamentale que, vous savez, le fameux slogan qu'on voyait défiler sur les pancartes dans les années 60-70, « Un enfant, quand je veux, si je veux
oui. »,
ce fameux slogan, en fait, a été défendu de manière inégalitaire, puisque la question du « quand je veux », avec l'introduction de la pilule, l'arrivée du droit à l'avortement, a aidé les femmes à pouvoir choisir le moment où elles pouvaient devenir mères. Mais en revanche, la question du « si je veux » a été minorée. Donc, c'est quelque chose qui a été défendu, mais pas suffisamment. Et en tout cas, les voix qui se sont exprimées sur le sujet n'ont pas connu la même diffusion que celles qui se sont intéressées à la question de la pilule de l'avortement. Et s'ajoute à ça un phénomène qui est très, très, très français, qui est la valorisation du double modèle de la femme qui travaille et a des enfants. C'est pas par exemple le cas en Allemagne, pour donner un exemple assez proche, où justement il est extrêmement compliqué pour les femmes qui travaillent de mener une vie de famille, qu'elle soit accomplie ou non d'ailleurs, mais de mener une vie de famille.
Et du coup, vous racontez dans votre livre que les universitaires allemandes que vous rencontrez, elles ne sont pas mal vues de ne pas faire d'enfants. C'est normal.
Alors c'est normal. Après, effectivement, c'est normal et il est considéré aussi comme, entre guillemets, normal qu'une femme choisisse de ne se dédier qu'à sa carrière. Alors, c'est pas du tout un modèle forcément idéal, puisque l'idée, ou en tout cas mon idéal personnel et celui, je pense, de beaucoup de femmes serait de pouvoir tout simplement défendre nos choix, quoi, de pouvoir choisir d'avoir un enfant, de ne pas en avoir, de mener de front vie professionnelle et vie de mère, ou tout simplement de ne se consacrer qu'à ses enfants. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a une valorisation extrême de la figure de la mère, on va dire un regard plus ou moins neutre ou objectif quant aux femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants pour se consacrer à leur carrière. En France, c'est un peu différent. Il y a un petit peu cette idée, si vous voulez, qu'il faudrait cocher la case donc de travailleuse, de femme qui en tout cas a une vie professionnelle. Alors, épanouie, c'est une autre question, mais en tout cas une vie professionnelle. Et puis également, une vie de mère. Mais alors, attention, il faudrait que ce soit entre guillemets raisonnable, puisqu'il est très souvent mal vu qu'une femme ait plus de 3 ou 4 enfants.
Oui, oui, c'est vrai.
Donc, idéalement, ce serait la vie professionnelle, la vie de mère, tant qu'à faire un garçon et une fille, puisqu'il faudrait que toutes les cases soient cochées. Et donc, dans mon cas, donc, à l'image de beaucoup d'autres femmes dans ma situation qui font le choix de ne pas avoir d'enfants, nous sommes mal vues. Mais il en va de même des femmes qui font le choix d'en avoir beaucoup et de ne pas travailler. Parce que ce modèle, ce double modèle donc de la mère qui travaille est quelque chose qui est très très ancré dans la société française, qu'on peut expliquer par plein de raisons, mais qui remonte notamment à l'apparition des nourrices au XVIIIe siècle, qui avait permis à l'époque aux femmes de ne pas s'occuper uniquement de leurs enfants. Donc c'est quelque chose de très complexe, mais qui questionne effectivement le rapport à la norme, mais il me semble que c'est vraiment essentiel de le contextualiser, de le situer. C'est pas la même chose, par exemple, dans le contexte nord-américain, États-Unis en particulier, où là encore, il y a différents modèles qui pèsent sur les épaules des femmes, mais de manière un petit peu différente. À cela s'ajoute, dans certaines régions des États-Unis, la nécessité de s'engager dans des associations, dans d'autres contextes faire du sport pour avoir un corps absolument parfait, etc., etc. Mais ce qui me semble assez intéressant, c'est que ces injonctions intégrant la parentalité concernent avant tout les femmes. Et un petit peu moins les hommes, chez qui il y a aussi des injonctions. Je sais, quand un jeune homme de 30-35 ans se met à avoir une situation professionnelle stable, hein, il n'est pas rare qu'on lui demande « mais bon, quand est-ce que tu t'y mets ?» hein, c'est quelque chose qui n'est pas rare. Mais d'un point de vue anthropologique, sociologique et même psychologique, hein, la figure du père est associée moins systématiquement à une image de la virilité que la figure de la mère ne l'est à celle de la féminité. Et c'est vrai que les femmes, et les femmes françaises en particulier, hein, subissent vraiment ce poids, ce double poids de devoir cocher la case de la maman et d'une vie professionnelle accomplie, quoi, effectivement.
Oui. Chloé Chaudet, vous publiez « J'ai décidé de ne pas être mère ». Vous avez rencontré des hommes qui ont décidé de ne pas être père. Vous avez eu beaucoup de témoignages, vous venez d'en parler, mais racontez-nous un peu.
Oui, alors ben, en fait, j'en ai rencontré hein, au moment d'écrire mon livre. Hein, d'ailleurs, plusieurs amis que je remercie à la fin du livre ont vraiment nourri cette réflexion. Amis masculins ont vraiment nourri cette réflexion. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les hommes que j'ai pu interroger et dont j'ai aussi été confrontée aux témoignages hein, dans les études universitaires que j'ai consultées pour écrire ce livre, donc ces hommes se plaignaient ou constataient effectivement une forme de récurrence, en fait, de l'idée que pour être un homme accompli, il fallait avoir des enfants. Mais ne l'associez pas forcément à des attaques, à des remarques récurrentes, à une forme d'agressivité. Et ce que j'ai trouvé aussi assez intéressant, c'est que tous, alors absolument, tous ceux que j'ai interrogés et tous ceux dont j'ai vu les témoignages s'accordaient pour dire qu'effectivement, il leur semblait beaucoup plus compliqué d'assumer cela quand on était une femme, parce qu'eux-mêmes avaient parfaitement conscience, pour l'avoir vu autour d'eux, que les femmes, et les jeunes femmes en particulier, étaient sans cesse confrontées à la question du « bon, eh bien, tu t'y mets quand ?» Et voilà, donc les hommes ne sont pas du tout épargnés hein, par les injonctions à la parentalité, mais c'est vrai que nous sommes tellement biberonnés depuis notre plus jeune âge, en particulier en France, à l'idée qu'être mère serait une évidence pour une jeune femme, pour une femme. Donc ça commence très tôt, hein, pour la petite fille, ensuite à qui l'on offre des poupées, des poupons, même si effectivement, il y a de plus en plus de parents qui réfléchissent hein, justement à nuancer un petit peu ces assignations genrées, mais on est encore très très loin de ce qui peut se faire hein, dans certaines crèches, notamment scandinaves. Hein. Bon, tout n'est pas du tout parfait non plus là-bas, hein. Je ne cherche pas à forcément opposer les modèles sociaux, mais c'est vrai que l'idée, ou même l'idéal d'une parentalité partagée n'est pas du tout encore répandu dans la société française. Ce sont encore majoritairement les femmes qui sont associées à cela. Hein, comme elles sont associées au métier du soin, aux activités du soin, hein, du reste. Hein, ça ne concerne pas que la parentalité.
Oui. Chloé Chaudet, quelles sont les répercussions négatives de ce choix que vous avez fait de ne pas avoir d'enfant ?
Alors, en ce qui me concerne, aucune. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, hein, puisque j'ai voulu représenter la non-maternité, enfin montrer que la non-maternité pouvait être quelque chose de très joyeux et qu'il n'y a pas de traumatisme familial, il n'y a pas de frustration ni de difficultés. En fait, les difficultés, elles me semblent plutôt se situer dans le regard ou dans les esprits de celles, majoritairement des femmes, qui s'interrogent sur mon choix. Et qui ont l'air de penser que forcément je serai malheureuse, je le regretterai, qui s'inquiètent pour moi aussi, hein, qui tendent à suspecter que ce serait en lien avec mon compagnon. Donc je suis en couple, hein, je suis heureuse avec mon compagnon qui lui non plus ne veut pas d'enfant, et j'ai pu entendre parfois une certaine suspicion selon laquelle, en fait c'est parce que mon compagnon ne veut pas d'enfant que je n'en veux pas non plus. Et ce genre de rationalisation négative quant à mon choix, comme on ne comprend pas ce choix et comme on ne comprend pas qu'il peut être parfaitement assumé et heureux, mais très souvent, on se met à trouver des raisons négatives, la plupart du temps. C'est très, très rare hein, que j'ai pu entendre des éléments positifs. Alors, à part l'idée très cliché selon laquelle je n'ai pas d'enfant parce que je suis une intellectuelle.
Mais ça, c'est
cliché. Mais il n'y a pas vraiment de problème. Alors, cela dit, hein, je le raconte aussi dans mon livre, parfois, j'ai des petits moments de doute, de vacillement. Hein. Parfois, je me dis, bon, mais est-ce que peut-être plus tard, hein, pourquoi pas un jour, tu pourrais éventuellement le regretter. Je suis aussi traversée moi-même par ces moments-là, mais qui surviennent très souvent au terme de ces conversations très intrusives que j'ai pu avoir avec des jeunes femmes, justement.
Oui.
Donc, je pense que c'est en lien avec ce poids, le poids de cette norme sociale. Et puis, c'est ce que je dis aussi dans mon livre. Hein, là, je suis autour de ce fameux âge de 35 ans, qui est un âge où les choix se cristallisent, se fixent. Et je dis aussi au début de mon livre que, bon, oui, après tout, je vais peut-être le regretter un jour, mais comme je vais peut-être regretter un jour de ne m'être pas lancée dans des études de médecine et d'avoir plutôt suivi des études littéraires. Donc, je pense que cette idée que nous ne pouvons pas forcément tout vivre, qu'à un moment, il faut prendre des décisions qui nous obligent à tirer une croix sur certaines alternatives, bah, il faut aussi l'accepter. Mais dans ce contexte, le choix de ne pas avoir d'enfant ne doit pas être moins valorisé que celui d'en avoir, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a encore très, très souvent cette idée qui apparaît qu'une femme sans enfant serait une femme incomplète. Or, ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle j'estime que, bah, au contraire, pour moi, ce n'est que du... Comment dire, enfin, je dis que la formule est un peu cliché, mais ce n'est que du bonheur de ne pas avoir d'enfant, puisque je transmets de tellement d'autres manières que je n'éprouve pas ce besoin-là, en fait. Hein.
Oui, oui, on le comprend bien, Chloé Chaudet. Et à la lecture de votre livre, on sent cette pression, justement, qu'il y a sur vous, quand même. C'est pas évident. Il y a des anecdotes où vous arrivez à un endroit où deux mères ont une conversation et elles vous excluent de cette conversation lorsqu'elles se rendent compte que vous n'avez pas d'enfant.
Oui, tout à fait. Alors, de ce point de vue-là, en fait, les éléments négatifs ne viennent pas de moi-même ni de ma vie, ça vient vraiment des réactions, hein, des personnes qui réagissent quant à mon choix. Et alors, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que je débarque pas comme ça dans une soirée, dans une conversation en disant « je ne veux pas d'enfants ».
Bien sûr.
Il y a toujours une question « bon, alors, et toi ?» ou « alors, est-ce que vous avez des enfants ?» Et c'est à ce moment-là qu'un froid survient, parce qu'effectivement, hein, parler d'enfants, c'est presque maintenant une forme de small talk. Hein. Je dirais pas que c'est comme parler de la pluie et du beau temps, mais quand des personnes se connaissent pas forcément très bien, quand ce sont des femmes, au bout d'un moment, survient effectivement la question des enfants. Et oui, alors, c'est pas du tout un drame, et dans d'autres régions du monde, le fait de ne pas avoir ou de ne pas pouvoir avoir d'enfants a des conséquences autrement dramatiques, mais il est vrai qu'il y a parfois une forme d'exclusion. Qui relève pas forcément d'une agressivité volontaire, mais c'est vrai que certaines personnes sont tellement peu habituées à être confrontées à l'idée qu'il est possible de ne pas vouloir d'enfants, qu'il y a une forme de blocage. Et quand les personnes ne vous connaissent pas suffisamment pour vous juger, certaines le font, hein, certains vous jugent très vite, mais d'autres vous excluent tout simplement de la conversation et ne sont pas capables, en fait, de changer de sujet, par exemple, quelque chose qui est aussi simple. Quand on parle de la pluie et du beau temps, on arrive assez facilement à changer de sujet. Mais quand on parle des enfants, c'est considéré comme un sujet tellement important qu'on préfère exclure l'autre, finalement. Ça, c'est un phénomène que j'ai remarqué très, très, très souvent et qui m'a été rapporté aussi par plusieurs amis et femmes de mon entourage, effectivement. Ouais, ouais. L'exclusion automatique. Ouais.
C'est intéressant, oui. C'est on vous exclut, on n'a pas l'impression de commettre une impolitesse et on le fait quand même.
Ouais, c'est, je pense pas que ce soit quelque chose. Alors bon, parfois, hein, certaines femmes sont extrêmement agressives et virulentes, mais la plupart du temps, c'est plutôt une forme d'absence de prise de conscience, du fait qu'il y a d'autres choix possibles. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, pour un petit peu montrer ce que pouvait représenter ou ce que pouvait être une vie sans enfant, hein, qui n'est pas du tout une vie malheureuse. Et puis peut-être aussi pour montrer, alors pas uniquement à mon entourage, hein, aux personnes, justement, qui veulent, elles, avoir des enfants ou qui en ont, ce que ça peut signifier d'être confronté à quelqu'un qui n'est pas dans cette situation. Parce que, bon, je vous parlais des chiffres tout à l'heure, je vous disais, c'est à peu près 4,5% des Françaises de 18 à 79 ans, selon le dernier sondage, hein, qui affirme ne pas vouloir ou ne pas avoir voulu d'enfants. Quand on fait un petit produit en croix, qu'on rapporte cela à la population française, ça fait quand même... beaucoup, ça fait plusieurs milliers, et surtout quand on ajoute à ces femmes celles qui ont déjà un enfant mais n'en veulent pas d'autres. Là, tout de suite, on est à plusieurs millions. Hein. Donc, en ayant l'impression d'exclure, ou en tout cas en, en n'accordant pas de considération à une personne qui ne souhaite pas avoir d'enfant, ben, on exclut quand même une certaine frange de la population sans s'en rendre compte. Parce que c'est vrai que nous autres, hein, femmes et hommes d'ailleurs qui ne veulent pas d'enfants, n'avons pas forcément tendance à clamer ce choix sur les toits. Et c'est encore pire dans le cas des personnes qui souhaiteraient avoir des enfants mais ne peuvent pas en avoir. Oui. Pour des raisons biologiques en particulier. Et alors là, la violence de telles réactions, de telles habitudes d'exclusion automatique est vraiment problématique parce que au poids lié à ce double modèle féminin au sein de la société française de la femme qui travaille et a des enfants, donc à cette norme-là, ben, ça ajoute en plus la pression, la souffrance liée à une injustice biologique. Et donc, c'est vrai que je pense un petit peu plus d'empathie de la part des parents ou de la part de celles et ceux qui sont persuadés qu'avoir un enfant est un épanouissement absolu serait sans doute bienvenue et ferait beaucoup de bien à celles et ceux qui font d'autres choix ou à celles et ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, effectivement.
Oui, Chloé Chaudet, on encourage à lire votre livre « J'ai décidé de ne pas être mère » aux éditions L'Iconoclaste. Vous avez eu des réactions négatives à ce livre pour l'instant ?
Alors oui, j'ai eu quelques réactions négatives, même si je me suis efforcée de ne pas parcourir les forums de commentaires parce qu'il y a souvent des choses assez virulentes. Des choses, en fait, je ne pensais pas que je serais confrontée à ce genre de choses, mais oui, bah, c'est qu'elle n'a pas trouvé le bon, ça c'est encore gentil. Et alors un autre, enfin c'est encore gentil entre guillemets, hein. Et alors un autre type de réaction assez récurrent, c'est oui, non, mais de toute façon, elle a 35 ans, c'est trop tard pour elle.
Oui.
Et vraiment, avec des développements très sérieux sur le fait qu'après 35 ans, il ne serait plus possible d'avoir d'enfants, que la fécondité féminine chuterait en flèche. Alors oui, bien sûr, hein, on ne peut pas avoir d'enfants avec la même... c'est plus difficile d'avoir effectivement des enfants après 35-36 ans. Mais il n'y a pas comme ça un coup près à l'âge de 35 ans qui interdit chaque femme de tenter l'aventure de la parentalité. Et alors, je pensais, si vous voulez, que j'aurais énormément d'insultes, hein, les insultes habituelles du type « bon, égoïste » ou alors... Alors, féministe militante, ça revenait tout le temps parce qu'il faut forcément être une féministe militante pour ne pas vouloir d'enfants. Enfin, c'est un grand cliché aussi. Mais j'ai pas vraiment eu ça. J'ai eu des jugements sur le fait que je n'avais pas trouvé le bon et des jugements sur le fait que comme j'avais 35 ans, c'était trop tard. Ça dit encore quelque chose, me semble-t-il, de l'état de la société française aujourd'hui.
Il y a une véritable incompréhension, oui.
Mais oui, il y a une véritable incompréhension. Alors après, bon, cela dit, c'est vrai que... Bon, généralement, les personnes qui faisaient ce type de commentaires n'avaient pas écouté l'entretien, n'avaient pas lu le livre. Donc, il y a aussi parfois des jugements à l'emporte-pièce. Mais on voit ce que ça déclenche. Hein. Le simple fait de voir le titre, oui, une femme de 35 ans dit qu'elle ne veut pas d'enfant, ça déclenche des crispations qui semblent presque d'un autre temps, en fait.
Oui, oui. Chloé Chaudet, donc, que répondez-vous, vous ? Est-ce qu'il y a une bonne réponse, justement à, est-ce que vous avez des enfants ? Qu'est-ce qui est le plus simple ? Qu'est-ce qu'il faudrait répondre pour être tranquille ?
Alors, ben, il y a autant de réponses hein, possibles que de femmes et que de parcours de vie. Mais alors, au fil de mon cheminement, j'ai réussi à trouver une réponse qui fonctionne assez bien, généralement, qui est de dire avec un grand sourire, sans façon merci. Oui. Quand on vous demande « avez-vous ou souhaitez-vous avoir des enfants ?», sans façon merci avec un grand sourire, parce que de toute façon, quand on appartient à une minorité, il est généralement très contre-productif d'attaquer en retour, hein, typiquement, bah non, je n'en veux pas, et pourquoi vous en voulez, ou pourquoi toi tu en veux, là tout de suite on passe pour une personne agressive.
D'accord.
Donc, forme d'irrévérence, un petit peu souriante, et puis je trouve que cette formule, sans façon merci, elle montre que le choix est mûri, le choix est réfléchi. Deuxième petite tactique que j'ai pu aussi tester, c'est quand la personne ne se contente pas du sans façon merci et vous interroge, bah, c'est en fait lui tendre un miroir. Parce que j'ai remarqué que très souvent, les personnes qui insistaient s'inquiétaient finalement pour moi. Que c'était pas forcément... Alors, il y a parfois une forme d'agressivité, mais parfois, il y a vraiment une forme d'inquiétude. Bah, c'est ensuite dialoguer avec ces personnes au sujet de leur inquiétude. Un exemple, hein, « Mais est-ce que tu n'as pas peur de vieillir seul ou finir seul ?» grand classique. Bah, retourner la question à la personne en lui disant « Mais pourquoi est-ce que la solitude te fait peur ? Qu'est-ce que tu en penses ?» Faire dériver un petit peu la conversation pour finalement faire se rendre compte à la personne en face de vous qu'elle projette beaucoup de choses. Et ça donne lieu à des conversations très intéressantes, en fait, qui dépassent largement le non-désir d'enfant. Ça, c'est clair.
Oui.
Donc, toujours essayer de dialoguer, parce que malheureusement, quand on se braque, même si parfois on a envie de se braquer, ou quand on rétorque violemment, ben, comme on appartient à une minorité, c'est forcément vous qui passez pour la personne agressive, malheureusement. Peut-être que dans quelques années, ce ne sera plus le cas, espérons-le.
Oui, mais pourtant, ça doit être pénible, justement, de répondre « non, je n'ai pas d'enfant, non, je n'en veux pas ». C'est des questions qui doivent revenir très souvent.
Oui, et surtout, alors, ce qui est assez fou, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mot positif pour désigner le non-désir de maternité, de parentalité. On le voit dans le vocabulaire qu'on emploie, hein, « non-désir »,« non-choix »,« je ne veux pas ». Dans le vocabulaire biologique, médical, c'est encore pire. Il y a ce terme de nullipare que je trouve absolument horrible.
Oui,
nullipare,
oui.
Ça désigne une femme qui n'a pas accouché. Et alors, entre parenthèses, c'est un terme qu'on emploie aussi dans le domaine de la zoologie. Bon, alors, moi, je suis une littéraire. Pour moi, le poids des mots et de l'étymologie compte. Dans nullipare, vous avez la racine nullus en latin qui veut dire nul, en fait. Hein.
Oui.
Donc, et quand on se penche un petit peu sur le registre démographique cette fois, on parle d'un fécondité volontaire. Donc, en fait, c'est extrêmement difficile de trouver un terme positif pour désigner cela. Alors, je me suis demandé un moment, mais comment faire ? Parce que les Anglais emploient très souvent, enfin, emploient souvent le terme de « child-free » au lieu de « childless » quand il ou elle cherche à désigner...
C'est-à-dire « childless » sans enfant. Alors, et « child-free » libre.
Voilà, c'est ça. En fait, childless, c'est le terme habituel pour désigner le fait de ne pas avoir d'enfant. Et child free, c'est un terme qui a été introduit justement par, à l'origine, des associations de non-parents, comme on les désignait dans les années 70. Le suffixe free désignant la liberté, donc plutôt de parler de childless, de penser le non-désir d'enfant au négatif, le penser comme un choix, quoi. Child free, on pourrait peut-être que traduire par libre d'enfant. Donc, c'est déjà une connotation plus positive. Mais en fait, je pense que le français a déjà un très beau mot pour désigner le fait de ne pas avoir d'enfant. C'est le mot « femme », en fait. Le
oui.
mot « femme », tout simplement. Plutôt que de dire « bon, bah, je ne veux pas d'enfant, j'ai fait le choix de ne pas être mère », on a dit « je suis une femme ». Point. Je suis une femme. Et œuvrer à dissocier, finalement... cette idée à dissocier la maternité de l'identité féminine, quoi. Et c'est ce que, bon, je spoil un petit peu, mais c'est ce que je dis à la fin de mon livre, après avoir cherché les mots. Les mots, je les trouve, en fait, en disant, oui, je suis une femme et je veux être une femme, je ne veux pas être une mère. Et ça, c'est quelque chose qui me semble, ça me semble absolument essentiel d'œuvrer à développer cette idée, pas du tout à des fins militantes, pas du tout à des fins méprisantes envers les mères, c'est pas du tout ça, mais simplement considérer qu'il y a autant de parcours féminins possibles que de femmes, et que le terme de femme ne se limite pas à désigner les mères ou les mères potentielles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître tout bête, mais qui est encore vraiment... c'est pas du tout encore ancré dans les mentalités, ça c'est sûr, surtout en France.
Oui.
Même si quand même une jeune génération commence à prendre la parole justement dans des lieux d'édition de publication qui sont plus forcément l'édition papier, il y a de plus en plus de podcasts sur le sujet, de petites vidéos en ligne, d'interviews en ligne, et c'est vrai que je m'en suis rendu compte depuis que j'ai publié mon livre, hein, où du coup, comme j'ai été sollicitée pour plusieurs entretiens, j'ai vu qu'il y avait, déjà des choses qui se faisaient au moment où j'avais commencé l'écriture, mais j'ai l'impression que ça se diffuse et ça se démocratise de plus en plus par des circuits qui sont justement pas forcément ceux de l'édition traditionnelle. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une bonne nouvelle, parce que l'idée, c'est pas du tout de porter un discours anti-parents, hein, pas du tout, ni dans mon cas, ni dans le cas des personnes qui ne veulent pas d'enfants. Mais on aimerait simplement être considéré au même titre que les autres, et puis profiter peut-être de cela pour échanger justement avec les mères, parler peut-être de leurs difficultés, de leurs aspirations. Et je trouve que un échange entre ces différentes femmes qui ont chacune leur mot à dire, qui ont chacune leur choix, leur raison d'avoir un enfant ou non, ça manque vraiment. Il y a encore vraiment une sorte de cloisonnement entre celles qui veulent avoir des enfants et celles qui n'en veulent pas. Et je trouve ça, je plaide pour un petit peu plus de sororité. C'est vrai que c'est un mot qui a le vent en poupe, hein, qui correspond à l'idée de... ou en tout cas un encouragement à prendre en compte d'autres expériences féminines que la sienne. C'est un terme qui se développe énormément actuellement, donc qui intègre notamment l'idée des oppressions que peuvent subir, par exemple, les femmes de couleur ou les femmes transgenres, etc. Donc ça, c'est super, hein, qu'il y ait tous ces débats. Mais au sein de ces débats concernant L'élargissement de l'idée de sororité, ben, celles qui ne veulent pas avoir d'enfants sont très très souvent oubliées. Or, c'est vraiment le bon moment, là. On est en plein contexte post-MeToo. On aborde de plus en plus les questions liées à l'intimité, le rapport entre l'intime et le politique, le corps des femmes, les questions du consentement. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, semble-t-il il me semble que le désir, non-désir de maternité devrait être abordé. Enfin, c'est absolument fondamental. Et malheureusement, ça ne l'est pas encore. Mais le fait que vous m'invitiez et que nous ayons cette conversation prouve que les choses sont en train de changer.
Et oui, ça change alors trop doucement, mais ça change quand même. Vous en êtes témoin.
Tout à fait, oui. Alors, bon, ce qui m'avait frappé au moment où j'ai commencé à me documenter pour mon livre, c'est que j'ai constaté qu'il existait, en fait, il avait existé des débats, hein, en particulier au sein des années 60-70, parmi les cercles féministes, concernant justement le non-désir de maternité. Mais ces débats ont très vite été minorés. Et un exemple que j'ai trouvé très frappant, ce sont les travaux de la psychologue Edith Vallée. Ça s'écrit V-A-2-L-E-E.
Oui.
Donc, cette personne avait rédigé une thèse, justement, s'intéressant aux femmes ne voulant pas d'enfants. Elle avait rassemblé des témoignages qu'elle avait contextualisés, analysés. Son livre est paru au début des années 80, avec très peu d'écho. Et il a à nouveau été réédité au début des années 2000. Sans trop d'écho, là encore. En revanche, quelques années après, quand même paru l'ouvrage de Mona Chollet, Sorcière, dans le contexte français, qui tentait, là encore, un petit peu comme Edith Vallée, de s'adresser à un public un peu plus large que le public universitaire habituel, dans ce type d'ouvrage abordant ces questions-là. Et l'ouvrage de Mona Chollet, Sorcière, où il y a vraiment tout un chapitre consacré au non-désir de maternité, a eu un écho et un certain succès. Il en va de même aussi pour un autre ouvrage, alors qui questionne cette fois de manière plus générale ce que son autrice appelle la charge maternelle, toutes ces injonctions qui pèsent sur les épaules des mères. Fiona Schmidt, l'ouvrage s'intitule « Lâchez-nous l'utérus », par exemple. Bon voilà, donc il y a des choses qui se font. Et puis alors dans le domaine universitaire, bien sûr, je m'appuie sur quantité de travaux qui ont été édités ces dernières années. Mais il me semble que le fait que ces questions soient abordées, soient diffusées et trouvent un écho au sein d'un public plus large est relativement récent. Je pense que je le daterai, je sais pas, peut-être d'une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et là, ça s'accentue de plus en plus, bien évidemment, dans le contexte de ce qu'on peut appeler le féminisme post-MeToo ou les féminismes post-MeToo, où justement la question du corps des femmes, des choix intimes des femmes est vraiment à nouveau essentielle, quoi. Faisant un petit peu retour sur ce qui se faisait dans les années 60-70 avec une éclipse entre les deux. Ouais. Donc il y a des choses. Alors après, cela dit, il y a moins de travaux, il y a moins de réflexions à ce sujet dans le contexte français que dans d'autres pays européens, par exemple. Pour vous donner un exemple très concret, au moment où mon livre est sorti, j'ai d'abord été contactée par des médias belges et suisses.
Ah oui,
qui est quand même assez
significatif.
C'est assez significatif.
Effectivement.
Ouais. Mais bon, les choses changent petit à petit et c'est vrai que là, je vous parlais tout au début de l'émission du sondage qui vient de paraître dans Le Monde, là, donc mardi, il y a deux jours, qui soulignait que 39% des 16-25 ans affirmaient leur peur d'avoir des enfants. Je pense que ça va faire réagir, j'espère que ça va faire réagir, et j'espère aussi que le fait que cette génération, là, 16-25 ans, se préoccupe de cette question va amener à ce que d'autres travaux soient produits, à ce que ces débats, ces dialogues se généralisent pour qu'on ne soit pas juste 5-6 personnes à aborder le sujet, quoi, ça c'est sûr.
Oui, en tout cas, on encourage à lire ce livre « J'ai décidé de ne pas être mère » aux éditions L'Iconoclaste. C'est vous, Chloé Chaudet, qui l'avez écrit et vous expliquez votre choix de ne pas avoir d'enfant. Et puis vous expliquez comment vous avez vécu ça et ce que vous avez pu mettre en place pour être tranquille. Merci. Merci Chloé Chaudet, merci à vous d'être intervenue dans cette émission. C'est la fin de cette émission, mais on vous souhaite plein de bonnes choses. Vous souhaitez en écrire un autre ?
Ben écoutez, oui, ben je pense que là, je me suis lancée dans l'écriture plus uniquement universitaire, donc je vais essayer de poursuivre dans cette voie. Merci à vous.
Merci, bonne journée. C'est la fin de cette émission. Vivre, c'est épatant.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.